Tu l'as pas copié? Tu l'as mis où?
Je pensais que c'était toi qui l'avais copié. Je t'ai donné la clé USB.
Mais non.
Je l'ai copié sur la clé USB. Si, c'est le roseau.
Ah, le roseau, pardon.
Okay. Mais tu... Ah je oui, j'avais pas... Ah, j'avais pas mis.
Tu sais gérer, hein, pointeur est là, et puis l'assurance après ça.
Et ça marche?
Ça marche.
Il n'y a pas besoin de pointer?
Non, ça devrait aller.
Bon, donc l'introduction à l'exposé a été largement faite par Conrado.
Ouais. Oui, donc, est-ce que vous m'entendez au fond? Merci. Donc dans cet exposé, les travaux qu'on présente, c'est des algorithmes d'estimation du nombre d'éléments distincts sous un autre point de vue qui est celui de considérer les flux comme des permutations aléatoires. Donc j'espère m'y être bien pris dans cet exposé, mais je m'adresse essentiellement cette fois-ci plus aux combinatoriciens et en particulier ceux qui s'intéressent aux permutations qu'aux algorithmiciens qui étaient visés dans l'exposé précédent. Donc pour commencer, un grand slide plat qui récapitule un peu ce qui a été dit dans l'exposé précédent et en mettant l'accent sur les variables aléatoires qui sont calculées. Donc pour l'estimation du problème de cardinalité ou du nombre d'éléments distincts, il y a une énorme littérature qui est composée de plus de 162 références et chacune peut être regroupée dans un certain nombre de classes. Donc il y a déjà les classes qui se basent sur l'échantillonnage qui sont intrinsèquement limitées pour les raisons dont vous a parlé Conrado, mais qui sont très utilisées en biologie. Il y a les algorithmes qui sont basés sur les collectionneurs de coupons, mais qui sont très limités parce qu'ils demandent une mémoire qui est linéaire par rapport au nombre d'éléments estimés. Et puis il y a toute une classe large d'algorithmes qui sont basés d'une façon ou d'une autre sur des statistiques d'ordre. L'algorithme probabilistic counting... Donc l'algorithme probabilistic counting dont Conrado vous a parlé en premier est le minimum d'un certain ensemble constitué de géométriques. On vous a ensuite parlé de statistiques d'ordre sur les variables uniformes qui ont été introduites par Barry Yosef, donc qui sont les variables x entre parenthèses k. Log-log, hyper-log-log et tous Barzag, c'est des maximums de géométriques. Et puis moi j'avais déjà considéré le minimum de variables uniformes. Donc la démarche est toujours la même, c'est on a un flux, avec une fonction de hachage, on met des variables aléatoires en post-it sur chaque élément. Ceci a la particularité, comme vous l'a dit Conrado, que un même élément, par exemple mon, a la même valeur aléatoire qui lui est attachée. On trouve une fonction insensible aux répétitions, dont l'espérance dépend de n. Donc par exemple là, le minimum c'est 1 sur n plus 1 son espérance. Et ce qu'on considère, c'est qu'en inversant l'espérance, on va avoir un assez bon estimateur de n. Ces techniques, alors ça c'était en rouge bien sûr, ces techniques utilisent l'ultime valeur calculée, et c'est-à-dire que, et ça c'est le thème qu'on va développer dans les prochains slides, que ces techniques se basent sur la dernière valeur qu'on a calculée. Elles ne prennent pas en compte l'ordre des données. C'est-à-dire que si cette valeur-là, alors c'est laquelle, le complice, la 0.14, c'est le minimum et ça aurait été le minimum où qu'il se trouve dans le flux. Donc on ignore complètement le sens dans lequel sont donnés les éléments. On va revenir sur l'exemple des statistiques d'ordre rapidement. Donc c'est une redite avec ce qui a été dit, mais la répétition est à la base de la pédagogie. Donc on a d'un côté... un résultat probabiliste qui est que quand on tire n variables uniformes xi, qu'on a xk qui est la kème plus petite valeur, alors on a la distribution exacte de xk, son espérance est k divisé par n plus 1, elle suit une loi bêta, et pour k supérieur à 2, l'inverse de l'espérance là est à peu près égal à n. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que les fonctions de hachage, j'ai juste mis ce graphe qui dit que, par exemple, ça c'est tous les mots de l'alphabet français, en les hachant, on obtient des valeurs qui sont plus ou moins uniformes. Et puis l'algorithmique qui répond à cette théorie probabiliste, c'est on lit chaque élément du flux, on le hache pour avoir une valeur aléatoire entre 0 et 1, on tient un tableau contenant les k plus petites valeurs, et à tout moment, k divisé par le plus grand élément du tableau estime le nombre d'éléments distincts du. Ok, ça c'est ce dont vous avez entendu parler précédemment. Donc avec le hachage, tout élément distinct a une valeur uniforme XH entre 0 et 1. Les variables aléatoires uniformes forment une permutation aléatoire. Et en fait, d'ailleurs, c'est comme ça qu'on génère souvent les permutations aléatoires. C'est on tire des variables uniformes et puis on les compare et les rangs des variables uniformes donnent une permutation aléatoire avec le nombre, et on peut les dérouler avec le nombre optimal de bits. Mais les estimateurs existants ignorent cette permutation aléatoire. Donc la question de cet exposé, c'est cette permutation aléatoire ne donne-t-elle pas des informations qui permettent d'extraire des informations sur le flux? Dans la suite de l'exposé, on va trouver des statistiques sur les permutations, une en particulier, dont l'espérance est fonction de la taille de la permutation, et on va l'inverser pour en faire un algorithme. Donc c'est ainsi qu'on en vient à l'algorithme recordinalité. Cet algorithme part de la statistique bien connue des records. Donc un record, c'est un maximal local dans une permutation quand on la lit de gauche à droite. Donc il y a un exemple ici. Sur la permutation 1, 7, alors donc, oui, sachant que le rouge ne passait pas, j'ai essayé de tout passer en gras, grâce au 4C d'exposer ce matin. Donc dans cette permutation 1, 7, 3, 9, 8, 4, 2, 5, 10, 6, on lit dans ce sens-là et le premier élément est un record. Le deuxième élément est plus grand que 1, donc c'est un record. Troisième élément, non. Quatrième élément est plus grand que 7, donc c'est un record. Puis paf, aucun de ceux-là, jusqu'à 10 qui est un record. Donc cette permutation a 4 records. On observe que ce nombre de records est insensible aux répétitions. Ça vient du fait qu'ici, c'est une inégalité stricte. Donc si je passe au slide suivant où j'ai rajouté quelques répétitions, on voit que 4 corps est toujours valable. Donc, le résultat bien connu est que ce nombre de records est asymptotiquement logarithmique. C'est ce que vous pouvez voir ici sur cette simulation où j'ai une permutation de 100 points et que vous voyez comment le maximum évolue. Et donc, le nombre de records, c'est le nombre de fois qu'on change la direction et c'est à peu près logarithmique par rapport à 100. Algorithmiquement, calculer le record est très facile parce qu'il suffit de garder un registre contenant le maximum et de voir combien de fois celui-ci change. On peut étendre cette notion de record à la notion de cas record. Donc ça c'est la définition. Moi je préfère le voir de manière algorithmique. Et algorithmiquement, on lit la permutation toujours séquentiellement de gauche à droite et en maintenant un tableau des k plus grands éléments. Et le nombre de k records, c'est le nombre de fois qu'on modifie ce tableau. Donc la littérature est riche de résultats de ce genre sur les records. Et notamment, récemment, il y a un résultat sur la distribution de RK et son espérance. Donc Archibald et Martinez, et puis Helmi Martinez et Panholzer ont montré que la distribution du nombre de cas records est normale et que son espérance est cette valeur-là. Donc, on voit que l'espérance du nombre de cas records, c'est à peu près k log n plus O1, et on imagine qu'on peut se créer un estimateur RK qui est l'exponentielle de RK fois deux facteurs de correction, le alpha pour corriger le facteur multiplicatif et le phi pour corriger le facteur additif. Donc voilà notre premier résultat, l'estimateur recordinalité qui a ces facteurs de correction là et qui est asymptotiquement non biaisé. Donc maintenant, on calcule comme précédemment la précision de l'estimateur. Sa précision est ce truc-là. Donc, par rapport aux autres algorithmes dont on vous a parlé, cet estimateur a deux particularités. C'est que, au lieu d'avoir un truc du genre une constante divisée sur racine de m, donc là, k joue le rôle de m, en gros, ici, vous avez n qui est dans le dénominateur. Donc ça, c'est emmerdant, mais ce que ça dit, c'est que, contrairement aux autres algorithmes qui sont les meilleurs quand n est très grand asymptotique, ici, plus n est grand, et moins il est bon. Mais c'est assez lent la croissance, donc ça va quand même. Et l'autre chose, c'est que pour compenser le fait que, plus n est grand, la précision se dégrade, on a quand même un avantage, c'est que la précision quand n est moyen, petit moyen, elle est très bonne. Donc par exemple, sur ce graphe, ici, j'ai mis 2, 4, 6, 8, 10. C'est la précision qu'on a pour un n qui est facteur, qui est par exemple n égale 2 fois k, n égale 4 fois k, n égale 6 fois k. Donc c'est-à-dire un n qui croît en fonction de la mémoire. Et là, ce que je montre, c'est que cette courbe qui est en vert, c'est la courbe de recordinalité, c'est la précision. Et là, en rouge, c'est la courbe d'un bon estimateur qui est celui basé sur les cas statistiques. Et on voit que pour n jusqu'à à peu près 7, enfin quelque chose comme ça, pour n jusqu'à 7 cas, recordinalité est beaucoup plus précis que l'algorithme de cas statistiques. On a aussi, de manière très très simple, et ça c'est un de nos arguments principaux, comme on adapte les résultats de cet estimateur à partir de statistiques sur les permutations, on a eu assez facilement que l'estimateur avait une loi normale. Et là je vous le montre avec une distribution empirique qui montre les belles courbes de l'estimateur, notamment un petit truc, une petite particularité, c'est qu'il a tendance, quand k est petit, de sous-estimer la cardinalité. Donc ici, c'est la distribution des estimations, de 10 000 estimations, pour k allant de 1, 5, 10, 15, 25, jusqu'à 50. Et on voit que c'est très centré en 1000. Donc voilà l'estimateur. Je vous ai montré comment on est très facilement passé de résultats existants de la littérature combinatoire à des algorithmes qui sont efficaces en pratique. Et maintenant, je vais vous montrer quelques particularités de cet algorithme en particulier. Donc, ce que je vous ai dit, c'est que cet estimateur fondé sur la permutation des flux est complètement nouveau dans le sens où tous les autres estimateurs dépendaient des valeurs et il y a indépendance entre les valeurs et leurs positions. Ça, cette propriété assez chouette, ça permet de faire en sorte qu'en combinant un estimateur existant, donc ici par exemple les statistiques d'ordre k avec l'algorithme recordinalité, en les combinant de manière linéaire, on peut obtenir une précision qui est meilleure que celle de l'un ou l'autre séparément. Et ça, ça vient du fait que la variance est quadratique. Ok, parce que on n'a pas le plus 2 fois ça et ça au milieu qu'on aurait eu avec si le... C'est quoi déjà ce mot ? La racine carrée de la variance. L'écart type. Si l'écart type était linéaire, voilà. Et donc on a des gains entre 2% et 15% par rapport aux statistiques d'ordre qui a une très bonne précision. Et en plus, le truc qui est bien, c'est que recordinalité a la même complexité algorithmique que les statistiques d'ordre k, puisque quand on calcule les k plus grands éléments, il suffit d'avoir un compteur pour vérifier combien de fois ça change, mais la structure de données sous-jacente est exactement la même, et les calculs à faire sont exactement les mêmes. Et on a une propriété amusante d'universalité, c'est comme on vous disait, ce recordinalité est tellement nouveau que tous les estimateurs précédents peuvent être combinés de la sorte. Après, c'est sûr qu'on n'a pas les mêmes propriétés algorithmiques qui nous arrangent, mais on peut comme ça améliorer la précision de tous les algorithmes de cardinalité. Une deuxième chose, c'est par rapport à ce que vous disiez, Conrado. Comment ? Donc, par rapport à ce que vous disiez, Conrado, sur l'échantillonnage distinct, recordinalité nous y aide. Donc, on est dans le scénario où on a un flux de taille n et de cardinalité petit n. Et on a deux façons d'échantillonner sur ce flux. Soit l'échantillonnage standard, donc ce qu'on vous a raconté, c'est qu'on prend chaque xi, chaque élément avec probabilité 1 sur grand n. Donc ça, ça demande un peu de boulot parce qu'on ne connaît pas le grand n à l'avance, mais il y a un algorithme réservoir sampling qui fait ça très bien. Et le problème, c'est que les éléments qui apparaissent très peu de fois, les éléments qui apparaissent une fois, deux fois, trois fois, ils ne sont pas pris, et ça c'est ce qu'on vous a dit, qui était le problème de l'épice dans une botte de foin. Donc il y a la deuxième façon de faire de l'échantillonnage, c'est pas échantillonner sur le flux, mais échantillonner sur l'ensemble des valeurs distinctes de ce flux. Donc ça, il y a plusieurs algorithmes qui font cela, et ça a commencé avec Adaptive Sampling étudié par Flageolet, et ça a continué avec, par exemple, Gibbons, son algorithme qui est en fait en gros le même. Et donc ça permet de donner un échantillon où chaque élément apparaît avec probabilité 1 sur n, mais dans tous les cas, pour le moment, cet échantillon est de type variable. Pour fixer les idées, supposons qu'on a ce flux-ci avec 999 fois 1 et 1 fois 2, avec l'échantillonnage standard, et qu'on veut échantillonner un élément. Avec l'échantillonnage standard, on prend 1 avec probabilité ça, et on prend 2 avec probabilité 1 millième. Avec l'échantillonnage distinct, on a probabilité 1 demi de prendre l'un ou l'autre. D'accord. Donc tous ces algorithmes précédents d'échantillonnage distinct qui ont une grande utilité pour contrer ce problème de dépit dans une botte de foin, ils ont un échantillon de taille variable. Ils sont simples, mais là il y a plus simple, c'est qu'avec recordinalité, les k plus grands éléments qu'on a dans le tableau à la fin, ça constitue un échantillon uniforme du sous-ensemble du flux. Alors ça, on le voit pourquoi ? Parce que les maximaux des valeurs hachées ne dépendent absolument pas de la position où ils se situent dans la permutation aléatoire dans le flux. Donc ça, on l'a en bonus. Et puis, c'est un truc qui nous amuse beaucoup, c'est que en fait, tous ces précédents estimateurs se basent donc sur la valeur de la fonction de hachage. Donc la fonction de hachage, on ne peut pas y couper. On a besoin d'un truc qui est entre 0 et 1. Et typiquement, une chaîne de caractères, ce n'est pas compris entre 0 et 1. D'accord ? Mais comme recordinalité ne se sert que du rang des éléments, de leur ordre relatif, on peut se demander, à juste titre, si on a vraiment besoin de la fonction de hachage, dont la fonction, c'est juste de permuter les données. Mais supposons que le flux est une permutation qui est à peu près aléatoire. C'est ce qu'on appelle le modèle théorique du random streaming, qui a déjà souvent été utilisé dans la littérature. Et la question, c'est est-ce que c'est applicable en pratique ? Et avec comme enjeu que si c'était applicable en pratique, si on n'avait pas besoin de hacher, on pourrait économiser en gros 90% du temps de calcul. Parce que vous devez savoir que dans ces algorithmes, ce qui coûte le plus cher, c'est le hachage, parce qu'on doit hacher et donc regarder bit à bit chaque élément du flux. Bon, alors ça, on n'a pas encore une réponse fixée, mais des simulations préalables permettent de nous dire que si la précision, il y a une assez grande perte en précision, c'est quelque chose d'assez quantifiable. Donc ici, c'est toutes les tragédies de Shakespeare, donc une courbe par tragédie, et des estimations pour K allant de 1 jusqu'à 200. On voit à peu près que pour K égale 500, on atteint la précision la plus grande, et curieusement, un certain nombre des estimations se trouvent à 20%, donc c'est plus ou moins 20%, ce qui est assez bon. Et on note aussi surtout que la fâcheuse tendance à sous-estimer notre algorithme revient faire des siennes, et que là, on pourrait avoir des estimations encore plus précises si on arrivait à recentrer autour de 100. Donc là, c'est encore à travailler, mais c'est des résultats assez prometteurs. Après, reste à savoir si la distribution des tragédies de Shakespeare est... elle est bien aléatoire, mais est-ce que c'est le cas, par exemple, quand on est dans des réseaux, les traces de réseaux ? Alors ça, peut-être que non. Donc, en conclusion, je vous ai présenté une gamme de nouveaux estimateurs qui, eux, sont basés sur les permutations aléatoires. Ça permet d'obtenir des résultats comme la distribution des estimateurs, parce qu'il faut savoir que la distribution de ces estimateurs, en général, elle n'est jamais donnée, parce qu'elle est un peu complexe. Et là, on peut les obtenir pour pas grand-chose. Et on a de l'espoir que les records, c'était une statistique, mais il y en a plein d'autres sur les permutations, voir si on ne peut pas faire des algorithmes qui ont une certaine valeur ou un intérêt en adaptant d'autres statistiques. Et puis, comme je vous ai montré dans l'algorithme hybride, on semble exploiter davantage ou en tout cas différemment les données, et ça c'est aussi quelque chose d'intéressant. Les perspectives à court terme, c'est donc, comme je vous ai dit, les autres statistiques à étudier, s'affranchir des fonctions de hachage, et puis aussi les algorithmes d'échantillonnage. Une chose que je vous mentionne ici, c'est qu'on entrevoit comment avoir des algorithmes d'échantillonnage dont l'échantillon est de table variable, mais qui n'est pas une table variable qui varie n'importe comment, mais une table variable qui varie selon la cardinalité. Donc ça permet de pas avoir à fixer en avance la taille de votre échantillon, mais de dire, bon ben voilà, si mon flux a beaucoup d'éléments distincts, j'aimerais bien quand même avoir une idée de à quoi il ressemble, et donc je ne vais pas limiter à une constante. Donc par exemple, on peut dire, je veux avoir un échantillon de taille log de n, ou de taille racine carrée de n. Et ça présente un intérêt notoire, notamment pour ce qui est de l'estimation des éléments fréquents. Et donc voilà. Merci beaucoup de nous avoir écoutés.
Est-ce qu'il y a une question rapide ? Oui, elle est sûre qu'il n'y en a pas.
Okay.